Le mercredi balado diffusion chez Simplement Plein Air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement Plein Air, de la balado diffusion à son meilleur. Bienvenue à l'expérience audio Simplement Plein Air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
Simplement Plein Air, c'est de la balado. Simplement Plein Air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement Plein Air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement Plein Air et abonnez-vous. Après tout, Simplement Plein Air, c'est pour vous. Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement Plein Air. Et avec moi, un gars qui vient de la porte d'à côté, du nord, mais pas du nord de Montréal. Ni du nord de Chicoutimi, mais bien du nord québécois, 53e parallèle, dans le coin de La Grande, dans le coin de Redisson. Il s'agit de M. Sylvain Paquin. Salut Sylvain.
Hey, salut Guy.
Hey, là, c'est vrai. Là. Pour vous autres, vous n'avez pas eu le fameux redoux naturellement qu'on a eu dans le sud du Québec. Mais là, la neige est en train de s'installer, les caribous, il y en a, tout le tour, hein? Ça faisait longtemps que tu me disais que tu n'avais pas vu tant de caribous que ça autour de toi, là, directement, mais aussi qu'une température comme ça, avec ce qui se passe aussi avec les barrages d'hydro et tout, explique-nous ça un peu.
Ben, je te dirais, on a de la neige, comme tu sais, depuis le 20 octobre. On a eu quand même beaucoup de neige en novembre. Oui, on a eu notre redoux là un mois, la fameuse nuit qui a mouillé, qui nous a fait perdre beaucoup de neige. Les caribous qui sont débarqués vraiment partout, il y en a partout. Ce qui est inhabituel, c'est qu'on n'a pas de vent. Habituellement, l'enneigement nous amène du vent du nord au vent du sud, vent un peu de tous les côtés. Mais cette année, c'est exceptionnel de pas voir de vent. Puis, je viens d'avoir notre première nuit à moins 15, moins 22 la nuit dernière. Ce matin, petit grain de neige. Ils nous annoncent les prochains jours entre 5 et 10, des fois 15 cm de neige par jour. Mais encore là, ils nous l'annoncent, des fois, on n'en a pas. Fait que c'est vraiment un peu... spécial de voir cette météo qui est débalancée. On le voit aussi avec les animaux, parce que, je veux dire, le caribou, écoute, il y en a partout, c'est hallucinant. Les loups, j'ai fait un suivi des loups dernièrement, puis ils sont hyper mobiles, sont à la chasse, ça en est vraiment, vraiment fou. Les perdrix blanches et l'agopède, il y en a partout, la perdrix brune, il y en a. C'est spécial de voir ce changement-là, cet enneigement, ce début de saison je peux pas dire chaotique, mais qui est vraiment du jamais vu. En 23 ans, là, ce type de changement de saison, moi, j'ai jamais vu ça.
C'est vrai que c'est pas mal différent. Là. On le vit ici aussi, si on veut, là, au sud, là, avec les grands vents, les redoux et puis tout ça. Mais il y a aussi une chose que tu mentionnais en ronde, que tu n'avais pas vue, c'est que Hydro-Québec ouvre les barrages, fait baisser les lacs en haut, les réservoirs.
Ah ben, le réservoir, ben oui, à LG1, c'est ouvert depuis quelques jours. La dernière fois, c'est quand on a tourné, je crois c'est 2018, quand on a tourné entre deux mondes, qui a passé sur Planète Plus dernièrement. Il avait ouvert au printemps, parce qu'on avait eu un dégel rapide, puis il y avait de la neige. Écoute, ça n'en était même pas drôle, là, la neige qu'on avait eue. Sauf que là, je veux dire, on n'est même pas au début de l'hiver. On est encore à l'automne, puis ils ouvrent les portes. Mais l'eau, cette année, on en a parlé dans différentes chroniques. Guy, écoute, moi, j'ai jamais vu le réservoir Robert Bourassa aussi plein. J'ai jamais vu le lac en avant du camp aussi plein. Les tourbières, ouais, mais là, les tourbières, c'est rendu des lacs, là. Fait que tu te dis, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ben, effectivement, il ouvre les ventes. J'ai pas su s'il avait ouvert LG2, mais d'après moi, ils vont ouvrir LG1. Ils vont vider, pas vider, là, mais ils vont baisser le niveau de la rivière entre LG1 et LG2, et probablement qu'ils vont être obligés d'ouvrir LG2, là, parce que, si on a la neige comme les dernières années, avec toute l'eau qu'on a là, écoute, à un moment donné, ça va déborder à quelque part, là.
Oui, c'est ça. Puis il y a un temps propice à ça, hein, naturellement. Je pense qu'ils peuvent pas l'ouvrir quand il y a des glaces, ou ils peuvent-tu l'ouvrir quand il y a des glaces?
Ben oui, ils ont des portes. Il y a des portes qui sont chauffées à l'année, justement, parce que au printemps, s'ils ont à ouvrir, ben il faut que les portes soient pas prises dans des mètres et des mètres de glace, là, par chance. Non, c'est super bien fait, là. Moi, je les vois travailler, la gang d'Hydro-Québec, depuis des années, puis je veux dire, ils niaisent pas avec ça, là. Les vérifications sont faites 2, 3, 4, 5 fois par année. Les portes, les digues, vraiment, là, c'est du beau travail, ouais. Sauf que ça reste quand même qu'il faut absolument qu'ils ouvrent les portes s'ils ont besoin, fait qu'ils chauffent à l'année longue. Là. C'est sûr que l'été, peut-être beaucoup moins, là. Mm-hmm. Mais tu as des portes chauffantes exprès pour s'il arrive à une urgence au printemps. Parce que, il y a quelques années, on a eu un dégel, c'est 2008-2009. J'avais la gang de Katimavik ici, puis en l'espace de 2 semaines, on a passé de 1,5 mètre de neige au mois de mai à aller pratiquement se baigner sur le lac. Là.
Wow!
Parce qu'on s'est ramassé avec des 18-20, 18-20, 18-20. Je veux dire, c'était pas beau, là. Les ponceaux un peu partout arrachés. Je veux dire, le dégel ici, s'il est trop brutal, je veux dire, ça fait des dégâts un peu partout.
Là. Oui. Oui, naturellement, avec le montant d'eau là, qui peut s'écouler là-bas. Mais là, tu nous disais que vous êtes aux abords, si on veut, d'une tempête. Là. Il y a une tempête qui s'en vient chez vous, là.
Ben oui, il nous annonçait ça pour aujourd'hui, puis jusqu'au week-end prochain. Une tempête, tout étant relativement relatif, là. Mm-hmm. Mais une bonne petite bordée, là, de 10 à 15 à tous les jours, pour au moins 2 à 3 jours. Mais encore là... Si je regarde chez Sassibi, ils sont fait beurrer de neige dernièrement. Nous autres ici, c'était un petit peu de neige. Fait que tout est localisé, je te dirais. Plus au sud, il y a des endroits où il y a beaucoup moins de neige. Il y a des endroits où il y en a beaucoup plus. Fait que c'est drôle comme météo, là. C'est souvent bien, bien localisé, là. Il y a des endroits où il y a vraiment plus de neige. Il y a des endroits où il y en a vraiment moins, là. Fait que on essaye de faire avec. Moi, tant qu'à moi, un petit 30 cm, là, ça serait le temps, là.
Oui, bien, c'est sûr, là, parce que là, toi, naturellement, pour faire tes tournées au loup et puis tout ça, là, c'est mieux quand il y a de la neige, puis tu peux taper tes sentiers de motoneige, là, ça se fait assez bien, là.
Bon, c'est déjà fait. Les sentiers sont déjà tout tapés. La raquette est pas mal toute faite. Avec le relou qu'on a eu, la fameuse nuit avec la pluie, ça nous a fait un genre de grosse croûte. Fait que c'est beaucoup plus facile. Autant pour les animaux, là, on le voit avec le loup, on le voit avec les caribous qui sont passés à, je te dirais, à 30-50 mètres du camp en début de semaine.
Oh là là.
Ils ont passé sur le lac. Oh ouais, non, c'est vraiment fou. Là. Il y en a partout. Fait que j'ai hâte d'avoir un petit peu plus de neige pour aller faire un petit peu plus de raquettes loin, parce que t'as des endroits où t'as des roches, t'as des souches. Oui, je connais tous mes chemins, mais je veux dire, à un moment donné, un gars a le goût d'aller faire un peu le fou avec ma petite motoneige, là. C'est pas rien de gros, là, mais un petit peu de neige folle, là, ça sort un peu de l'ordinaire, là. Ça fait bouger les muscles qui bougent pas de l'été, là.
Oui, absolument. Et puis, Sylvain, toi, dans ces conditions-là, surtout avec du caribou mur à mur, est-ce que tu peux recevoir de la clientèle pour faire de la photo?
Ben oui, toujours, mais c'est sûr qu'avec les mesures COVID, nous, on est dans le secteur la Grande Rivière, Radisson, on est en mode orange. C'est sûr que de recevoir des gens de secteur rouge, c'est impossible.
Ouais.
Fait que c'est un peu limité, je te dirais. C'est un petit peu dommage, mais là, avec tout ce qui se passe, moi, j'essaie de pas trop regarder les médias parce que je trouve que on danse un petit peu le tango de la COVID, là.
Ouais.
Mais j'ai des gens qui planifient monter, qui arrivent de zone orange, sauf que les procédures, il faut qu'ils soient vraiment, vraiment respectées parce que faudrait pas enflammer le nord avec la COVID.
Non, absolument. Si on veut de l'information, Sylvain, là, pour justement là, monter, ou si on peut, ou comment ça fonctionne, on peut le faire comment?
Manière la plus simple, www.animalparquin.info, et juste une petite recherche avec le hashtag animalparquin, vous allez trouver Instagram, Facebook professionnel, Twitter. Puis, ben, gênez-vous pas pour envoyez-moi des questions. Puis, je suis déjà en train de planifier pour mi-janvier, février, vu que les caribous vont être là, d'essayer d'aménager des forfaits bien spécifiques pour ce type d'activité.
Oui, puis ça s'offre bien en cadeau de Noël, by the way. Donc, nous, là-dessus, ben, on va rejoindre Sylvain la semaine prochaine. Salut tout le monde et restez là, bougez pas, on vous revient après ceci. Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Salut Guy et bonjour à tous les auditeurs de Simplement plein air. Mon nom est Jonathan Goyer du podcast Le VTT Show. Je suis ici pour la chronique Quad. Écoutez, cette semaine dans ma chronique, on va parler de sentiers hivernaux. Comme vous le savez, un peu partout au Québec, l'hiver commence à faire son arrivée très tranquillement. C'est sûr que ces derniers temps, on a reçu pas mal de neige un peu partout au Québec, quoique en ce moment, dans la région de Montréal, de où est-ce que je vous parle, on n'a plus de neige, là. Tout ce qu'on a reçu, ça l'a fondu pratiquement toute cette semaine, mais je sais que dans plusieurs régions du Québec, la neige est encore là, est très bien présente, et on nous montre vraiment que l'hiver arrive à grands pas et va s'étendre tout au long du Québec pour les 3-4 prochains mois. Ceci dit, donc, avec cette neige-là, ce qui m'apporte dans cette chronique, à vous parler de sentiers hivernaux. Évidemment, comme vous le savez, comme c'est pas la première fois que j'en parle, dernièrement, on a connu la période de pré-vente de la Fédération québécoise des clubs quad. Et donc, ce qui veut dire que pour la majorité des membres de la Fédération, le VTT, c'est une très, très grosse pratique en hiver. Donc oui, il y a beaucoup de clubs qui sont ouverts seulement l'hiver et d'autres 4 saisons. Et c'est sûr qu'il y a des clubs qui sont ouverts seulement l'été. Mais je parle pour les clubs qui sont ouverts seulement l'hiver et les 4 saisons. Donc ceux-ci, en ce moment, sont en train de préparer la saison hivernale puisque c'est une des plus grosses saisons côté VTT au Québec. Et pourquoi je vous parle de ça? Bien, tout simplement parce qu'il y a des règles à respecter côté sentier. Donc, les clubs, comme je disais, sont en train en ce moment de préparer la saison, de signaliser ou de baliser les sentiers. Et pourquoi je vous en parle? Bien, tout simplement parce que c'est important de respecter la signalisation et surtout les consignes des clubs qui fait que il y a des certains clubs qu'on peut aller se promener en ce moment et d'autres pas encore, même si on a de la neige. Pourquoi? Parce que les clubs, comme je dis, sont en train de préparer la saison hivernale. Donc, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Ben, c'est pas compliqué. C'est que, premièrement, ça prend beaucoup, beaucoup de neige et vraiment beaucoup pour que tout ça soit ouvert. Donc, ça prend un couvert de neige de minimum qui est requis pour le passage des surfaceuses dans les clubs qui vont préparer les sentiers. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que les bénévoles, ils vont boucher les trous, ils vont faire en sorte de geler les milieux humides en sentier pour que ça soit sécuritaire pour la machinerie. Non, pas nécessairement pour les VTT. Quand je dis sécuritaire pour les VTT, c'est pas qu'ils font pas ça sécuritaire pour les VTT, c'est juste parce que vu que la machinerie, c'est une machinerie qui est très lourde, donc pour eux autres, pour que ça soit plus sécuritaire pour eux autres, il faut qu'ils fassent ce qu'on dit dans le jargon, défoncer les ponts et défoncer les trous humides, remplir ça de neige. Il faut que ça prenne des bonnes gelées durant la nuit pour que les trous qu'ils remplissent avec la neige qu'ils prennent à gauche et à droite, qu'il faut que ça soit très très solide pour le passage des surfaceuses. Évidemment, comme je dis, une surfaceuse, c'est très très lourd. Donc, il faut que ça soit très solide. Donc, c'est pour ça que ça nous prend plusieurs nuits en bas de zéro, là, même moins 10 et moins. Donc, pour que ça soit assez gelé comme du monde pour que les surfaceuses puissent passer. Maintenant, s'il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je vois les surfaceuses qui sont en mouvement sur l'application iQuad, sur la carte interactive, où j'ai vois passer quand je m'en vais travailler, je vois les surfaceuses qui sont en sentier. Est-ce que ça veut dire que les sentiers sont ouverts? » Pas nécessairement. Le mouvement des surfaceuses indique seulement que les machineries sont en fonction. Ça veut dire que la machinerie prépare actuellement, comme je disais, les sentiers et au durcissement de ceux-ci. Les seuls indices qui vont vous dire que les sentiers sont ouverts, c'est de suivre les clubs. C'est eux autres qui sont formés et qui sont les seuls autorisés à mentionner que OK, là, nos sentiers sont ouverts, vous pouvez y aller sans aucun problème. Donc, en attendant, ben, ceux-ci demeurent fermés. C'est toujours important, évidemment, avant de partir, de vérifier sur l'application iQuad ou sur la carte interactive de la Fédération sur leur site Internet. De voir si un sentier ou si les clubs sont ouverts. C'est très facile. Probablement, quand vous allez là-dessus, il faut que vous passez, il faut que vous mettez vos sentiers en mode hiver. Et tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est fermé. Si c'est en ouvert, ça veut dire que c'est ouvert. Et c'est les clubs qui gèrent ça. Donc, avant de partir, c'est quand même très, très important de suivre l'état des sentiers des clubs qui sont directement reliés sur la plateforme pour mettre les sentiers à jour. Encore une fois, ce sont les mêmes responsables des états des sentiers qui décident si un sentier est ouvert ou fermé parce que, comme je disais, ça prend suffisamment de neige au sol. Puis il est possible des fois que les sentiers soient devenus impraticables pour diverses raisons. Exemple, il y a eu un petit redoux, donc il y a eu accumulation d'eau sous un pont. Il y a des ponceaux qui sont arrachés, le sentier est mou, etc. Donc, encore là, eux autres, quand ils vérifient si tout est correct, et ils vont faire la mise à jour sur les applications, donc iQuad et ou sur la carte interactive de la Fédération, sur le site Internet de la Fédération. Et donc, ça, c'est à vous d'aller vérifier en tout temps si les sentiers sont aptes à vous recevoir. Évidemment, on parle pour une période minimum de 1 à 2 mois, donc d'ici aller environ jusqu'à la fin décembre. Après, en principe, à partir de janvier, il n'y a aucun problème. On a reçu de neige en masse. Le froid a été installé. Le froid a fait sa job, a fait geler les ponceaux, les secteurs humides, puis tout ça. Donc, en principe, à partir des fêtes, il n'y a aucun problème pour les 2-3 prochains mois. Aller jusqu'à la mi-mars, là, il n'y a aucun problème pour se promener en sentier. Vous pouvez y aller même pratiquement sans vérifier l'état des sentiers à partir de iQuad ou sur la carte interactive de la Fédération. Mais c'est sûr qu'en ce temps-ci, c'est très, très important de respecter la fermeture des sentiers parce que, en plus, pas juste seulement pour les côtés sécurité puis les ponts et tout ça, mais surtout aussi parce qu'on passe beaucoup sur des terres privées. Il y a beaucoup de fermiers qui nous donnent des droits de passage et ceux-là demandent aux quadistes, on demande au club de ne pas ouvrir tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une quantité X de neige parce que, ceux qui demeurent dans ces régions-là, vous le savez, les fermiers ont des boutures Les champs, ils leur font attention et ils vont donner des routes de passage seulement quand il va y avoir assez de neige pour pas que les quadis et les motoneigistes puissent briser les boutures qui vont faire que ça va faire leur pousser au printemps prochain pour, bon, évidemment, les revenus et tout ça. On comprend les fermiers qui gagnent leur vie avec des terres, des jardins, bon, peu importe, là, avec le côté agricole. Donc, pour eux autres, c'est bien important. Faut absolument pas briser toutes ces boutures-là parce qu'évidemment, c'est leur revenu. Et si il y a des quadistes, des motoneigistes qui s'aventurent sans respecter les consignes de signalisation, sans respecter les consignes de fermeture de sentier, bien évidemment, ce qui en découle, bien, ça va être carrément des pertes de droits de passage. Et ainsi, bien, on va voir nos clubs être obligés de réduire le nombre de kilomètres de sentiers, de fermer des sentiers par rapport aux demandes du propriétaire terrien qui nous donne gratuitement un droit de passage sur sa terre. Donc, sur ça, écoutez, moi, je vous invite évidemment à aller consulter les clubs avant de partir, avant d'aller faire une randonnée, peut-être pas le matin même, mais au moins la veille. Allez vérifier sur les cartes interactives, comme je vous disais, de la fédération sur l'application Equad, de vérifier avec le club où est-ce qu'on veut aller pour s'assurer que les sentiers sont ouverts. Et comme ça, ben ça nous crée pas de surprise, puis on sera pas obligé de revirer de bord le lendemain matin après avoir fait X nombre de kilomètres avec notre remorque et notre VTT à l'intérieur de la remorque. Comme ça, on n'aura pas de surprise. Et on va ainsi avoir de très belles randonnées. Donc sur ça, moi, je vous invite évidemment à venir écouter nos podcasts sur notre site internet au www.levttshow.com. Nous sommes rendus au podcast numéro 21. Et tout simplement, ben, je vous dis, si vous sortez en sentier, ben soyez prudents. Merci tout le monde. Bye-bye et à bientôt.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
Un commercial simplement plein air.
Et voilà, hey, on a toujours de la bonne musique hein, chez Simplement plein air. Et toujours, naturellement, nos stations affiliées qu'on salue. Hein? On vous salue tout le monde, on salue nos auditeurs et présentement on s'en va dans une région que j'affectionne beaucoup, vous le savez. Et oui, j'ai parlé de l'Abitibi-Témiscamingue et pour ce faire, bon, on va discuter avec notre ami. Moi j'ai toujours décrit notre prochain chroniqueur comme un gars qui aime le bois puis qui aime travailler le bois, un homme de bois. Il n'est pas fait en bois, mais c'est un homme de bois. C'est notre ami Guy Larochelle. Salut Guy!
Salut Guy!
Écoute, en fin de semaine, là, tu m'as fait rêver. Première des choses, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux que j'ai tellement... tu sais, la première idée, autrement dit, qui m'est venue, j'ai dit, waouh, les gars ont vraiment, les gars et les filles, là, il y avait des filles, ont vraiment capturé l'essence même d'une sortie plein air vraiment le fun et éducative. J'aimerais ça que tu nous en parles, Guy.
Bien, on pourrait appeler ça joindre l'utile à l'agréable. Hein? Aller passer une journée dans le bois ou une partie de la journée dans le bois, en forêt, tout près de la ville. Moi, le premier sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé là, ça fait quelques fois que je vais là, c'est un petit site que des amis se sont aménagés avec un shelter. Puis ils vont passer ils vont manger leur lunch en forêt. Premier sentiment que j'ai eu en arrivant là, c'est la tranquillité, la paix. Si près de la ville, aucun son, aucun bruit de trafic. Puis, je te dirais, à 10 minutes de la maison, 10-15 minutes ouais. De la maison.
Oui, j'ai déjà naturellement été là. En tout cas, oui, c'est vraiment, vraiment le fun.
Oui, puis mes amis, ben, ils voulaient avoir un petit peu une façon... Ils voulaient être... apprendre le GPS, en fait. Puis ça faisait un bout de temps qu'on parle de ça, puis des fois au téléphone, quand on se voit en ville, je parle de ça. Mais vraiment, c'est se retrouver dans la forêt ou avec nos GPS, eux autres en avaient chacun neuf. Puis, première affaire que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont pas acheté la grosse machine là, à 700-800$. Il y a des bons GPS de base aujourd'hui qu'on va avoir à 200-300, 400. Puis, ça fait le job. Et ouais. En autant, moi, je dis que le GPS, on est capable d'ajouter une carte SD dedans pour avoir les cartes topographiques. Bien, avec ça, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, puis... C'est ça qu'on a fait hier. On a commencé à... J'ai commencé à leur montrer les différents outils que leur GPS avait, puis ils étaient compatibles aux miens. Fait qu'on s'est amusé avec ça une couple d'heures.
Oui, puis c'est ça. Tu sais, Guy, je pense que tu viens de toucher un excellent point. C'est que la majorité des gens qui vont aller chercher un GPS, et puis ça, même il y a des vendeurs qui m'en ont parlé, c'est qu'ils veulent s'acheter des grosses machines. Tu sais, ils veulent rouler en Cadillac, mais dans le fond, ils ne sont pas capables de conduire un vélo. Tu sais, dans le sens, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ces machines-là, t'as beau lire le livre d'instruction, tu ne seras pas plus instruit à la fin parce que finalement, c'est un petit peu compliqué. Puis, il y a beaucoup qui vont dire « Ah non, c'est pas si compliqué que ça. » Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis, si on a 20 ans, l'éponge n'est pas encore trop pleine. Mais quand on est rendu à 50-60 ans où on peut se permettre une machine GPS à 700-800 $, on arrive avec ça. Il y a même des GPS avec des jeux. On en a parlé hors onde tantôt. Il y a des jeux dedans. Il y a toutes sortes d'affaires. Bien, ça devient compliqué, ces grosses machines-là. Et puis, le trois quarts du temps, qu'est-ce qui arrive? On va essayer de l'utiliser et puis on va la ramasser dans le fond d'un tiroir parce que là, il va falloir prendre une formation si on veut se débrouiller quelque peu avec. Mais des formations, ils ne s'en donnent pas en salle, hein, on le sait, puis surtout là, dans le temps de la COVID, ils ne s'en donnent pas en salle. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces gens-là, pas d'ordinateur ou... juste une petite tablette, comment s'inscrire, comment payer pour un cours, c'est bien beau, là, c'est un cours sur Skype ou peu importe, mais c'est beaucoup de problèmes, c'est encore des frais, hein? Oui. Fait que là, on se résume avec très peu, mais comme tu l'as bien dit, une machine de base où on commence petite bouchée par petite bouchée, qui est une machine qui va être quand même, comme tu le dis, avec une carte, pour réussir à avoir les cartes topographiques de notre région, qui c'est une petite carte SD, je te dirais que ça fait toute la différence, là.
Oui, il y a des fois où on va penser aussi, ah, bien, plus on va payer cher, plus l'appareil va être précis. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un GPS, aujourd'hui, ils ont à peu près toutes la même précision. Quand on parle des GPS là, pour utilisation pour les loisirs, là. Mm-hmm. On ne parle pas pour le travail, les outils d'arpenteur, ce n'est pas du tout la même chose.
Non.
Mais nos GPS de base vont nous donner une précision de 3, 4, 5, aller jusqu'à 10 mètres. Là. Tant qu'à moi, il n'y en a pas de problème. On ne se perdra pas avec cette précision-là. Fait qu'une fois qu'on a appris nos outils de base, comment se localiser, se voir aussi où on se situe à l'écran, être capable d'enregistrer ces points-là en référence parce qu'on veut les conserver, être capable de les renommer. Ensuite, l'étape d'après, aller chercher des go-to. Je vois tel point, telle montagne, je veux m'y rendre, créer un waypoint, être capable d'y aller, l'enregistrer et aussi enregistrer nos tracés, les renommer et même les tracés, on peut les changer de couleur, on peut les nommer aussi. Fait que c'est toutes des fonctions que nos GPS de base ont. Une fois qu'on a appris ça, on a fait pas mal le tour de nos gros besoins là, pour notre utilisation pour les loisirs.
Absolument, absolument. Puis par la suite, ben si on veut, parce que même ces petites machines-là, hein, tu vas apprendre l'essentiel, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire avec, même ces machines de base-là. Mais en apprenant l'essentiel, pour moi, l'essentiel, c'était d'arriver du point de départ où j'étais, faire un waypoint, et puis marcher, et puis faire des waypoints de temps en temps pour pouvoir revenir sur mes pas au point de départ.
Exactement.
C'est pour me retrouver, là, parce que moi, ma première expérience avec un GPS, ça avait été aux États-Unis, à chasse aux dindons sauvages au Kentucky. Et puis, moi, vous dire que j'en avais marché toute une shot dans le bois, là. Et puis, pas avoir eu ce petit GPS-là qui était vraiment un Garmin de base, là. Tu pouvais faire tes waypoints, puis tout ça. Je serais encore dans le bois, là-bas, là.
Ben oui. Puis aussi, ce que je dis qui est bien important de base, c'est que ça prend des piles de rechange qu'on va garder au chaud parce qu'à ce temps-ci, là, ça commence à faiblir assez rapidement les piles. L'énergie se perd assez facilement. L'autre point bien important que moi, j'ai toujours avec moi, j'ai toujours ma boussole. La boussole, là, quand je marche en forêt, j'aime bien mieux marcher avec une boussole que de regarder un petit écran dans mes mains puis pas regarder où je vais. Oui, il y a une boussole sur le GPS, mais quand on se déplace, souvent, on voit cette boussole-là varier parce que le GPS, lui, est toujours en train de calculer selon les satellites.
C'est ça.
Plus tu as de satellites, plus tu as de précision. À un moment donné, tu en perds, tu en retrouves des nouveaux, mais ta boussole, elle, elle se promène toujours, dépendant de ta vitesse de déplacement.
Exactement. Et
avec une des fonctions que le GPS a, c'est de te donner, une fois que tu as créé ton waypoint, si tu actionnes ta boussole, ça va te donner le degré, exemple, je ne sais pas, 274 degrés. Bien, ce chiffre-là, cette valeur-là, je la rentre dans ma boussole. Après ça, je pars avec ma boussole. Moi, je trouve que ça marche bien mieux viser un point très éloigné de moi avec la boussole, la bonne vieille Silva, et me déplacer vers ce point-là à 100-150 mètres et de regarder autour aussi qu'est-ce que j'ai comme environnement. Là.
Absolument.
Au lieu de toujours regarder un écran. Fait que je veux pas dire par là que le GPS n'est pas bon pour marcher, mais moi, ma façon, marcher à la boussole, je trouve ça beaucoup plus facilitant et rapide.
Oui, puis ça, il va falloir qu'on en jase à un moment donné dans une de nos chroniques. Mais là, le temps file rapidement, Guy. Oui. Mais tu as réussi à joindre l'utile à l'agréable. Et ça, ben, c'est des choses qu'on recommande aux gens. Écoutez, c'est pas obligé d'être de montrer à votre ami le GPS. Faut lui montrer comment faire un petit abri sommaire. Pas abri sommaire, mais un abri d'urgence. Un Quincy, faire un... Je sais pas, moi, vous savez comment faire un Quincy, un petit igloo, de quoi? Ben faites-le. C'est super le fun de sortir comme ça en plein air et apprendre des choses et surtout de partager nos connaissances.
Oui, puis un grand défi à ce temps-ci de l'année, là, parce que toute la forêt, tout est humide.
Absolument.
Allez dans le bois puis essayez de vous allumer un feu puis de manger votre sandwich grillé sur la braise. À ce temps-ci, tout un défi, juste allumer un feu.
Oui, monsieur. Donc, nous, là-dessus, ben, on va rejoindre Guy. C'est toujours intéressant, puis le temps file tellement rapidement. On va rejoindre Guy la semaine prochaine pour une autre bonne chronique dans le bois avec un amant du bois. Hein? Comme ça que ça se passe. Donc, salut Guy, bonne semaine.
Salut, bonne semaine à tous.
Et nous, ben, naturellement, on va être de retour après ceci. Ne quittez pas.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Salut les passionnés, c'est Pascal Auger qui vous retrouve, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre portion rando. On parle expédition, aventure, c'est un peu ça avec notre invité aujourd'hui, Mathieu Jourgeon, qui va venir nous parler donc de ses grandes aventures et il a à peine 27 ans. C'est fou, j'avais l'impression de parler à un bonhomme de 77 ans finalement. On va en parler dans les prochaines secondes. Bienvenue à notre rando-rencontre, donc diffusée à votre radio préférée. Sinon, en rediffusion sur le podcast ou encore la chaîne YouTube de Québec Compostelle. N'oubliez pas, ça vous tente de vous inspirer, de vous encourager, de vous faire encourager, de participer au défi Ça marche. C'est parti, vous avez 6 mois pour le faire. Peu importe quand vous commencez, on a une nouvelle cohorte qui commence chaque lundi. C'est quoi ce défi Ça marche? Ben, tout simplement, on accumule tous les pas que l'on fait dans une journée. Normalement, on devrait en faire 10 000 pour être en forme, selon l'OMS. Et puis, on met tout ça dans un podomètre, on met ça dans une application, puis on voit où on serait rendu si on était en train de marcher en réel sur le chemin du Québec de 1200 km. Donc, c'est le fun, malgré les confinements et tout ça, malgré peut-être la saison et tout. Non, on sort, on marche dans notre quartier, dans notre environnement. Et puis en même temps, on peut le voir accumulé sur le chemin du Québec. Puis en même temps, ben vous avez plein d'encouragements, de vidéos de ma part, de physiothérapie également pour vous donner plein d'informations. Et puis c'est dynamique, c'est très agréable. Allez faire un tour sur chemindu-québec.com pour avoir plus de détails là-dessus. Bon, allez, parlons-en concrètement de rando, d'expérience et tout. Il s'appelle Mathieu Jourgeon. Quand je l'ai rencontré, essentiellement, je l'avais j'avais vu qu'il débutait une nouvelle boutique plein air, mais tu sais, différent avec des vêtements, pas des vêtements, mais surtout de l'équipement ultra léger. Je trouvais ça très intéressant pour les gens qui veulent faire du plein air et partir à l'aventure. Mais j'ai appris à connaître un bonhomme pas mal intéressant.
Ah, Mathieu Jourgeon, c'est quelqu'un de complexe qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, jeune encore, mais qui a fait beaucoup, beaucoup d'expériences. C'est ça, j'ai envolé, moi je suis économiste, donc j'ai une maîtrise en économie, j'ai travaillé 5 ans en finance, là je suis dans un bac en droit, c'est ça, j'ai fait une carrière en finance, là je l'ai retourné en technologie, et je suis aussi aventurier, passionné d'expédition, de rando, de plein air, kayak, puis c'est ça, puis là en ce moment on a ouvert notre boutique en ligne en juillet, puis la semaine passée on a ouvert une boutique physique/atelier.
C'est un professeur d'anglais alors qu'il avait 13 ans, à peine 15 ans de ça finalement, qui l'a inspiré dans le plein air et aujourd'hui, ben, il œuvre là-dedans. Et puis, une de ses premières expéditions à 17 ans, quand il est débarqué de l'avion ici au Québec, parce qu'il vient de France, et il est débarqué, puis 2 semaines plus tard, il est parti avec son pack-sac marcher entre Montréal et Mont-Tremblant. Ah, puis ça s'arrête pas là. À un moment donné, il y a eu une folle idée de traverser le pays à pied.
Mon premier défi, j'ai fait 27 000 km sur le pouce, Montréal, Vancouver, Vancouver, Alaska, Alaska, Montréal, wow. En 88 jours. Okay. Puis le petit défi que je me suis donné, c'est pas ça, c'est pas le 27 000 km sur le pouce, c'est vraiment, je suis parti avec $50.
OK.
Puis l'objectif, c'était de pas utiliser d'argent. Donc, j'ai laissé carte de débit, carte de crédit,
okay.
Et j'ai pris $50 dans mes poches.
Comment ça s'est passé, ça?
Ben, c'était une expérience riche. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'aspect de nourriture parce que je mangeais pas tous les jours. Tu sais, les plus longues périodes que je mangeais pas, c'était 2 jours et demi. Donc là, je comprenais ce que c'était en sous-nutrition, ce qui m'a aidé à permettre de faire des expéditions et savoir gérer l'aspect nourriture. Donc, c'était pas nécessairement un défi plus qu'une expédition, mais c'est ça. Le but était de pas demander d'utiliser d'argent. Donc, ça a été dur d'un point de vue mental. Puis d'un point de vue nourriture, parce qu'avec $50, c'est ça.
Puis tu sais, genre pas assez occupé qu'il a décidé qu'il partait une entreprise en ligne, une boutique en ligne, puis ensuite c'est devenu une boutique physique qui est à Québec, à Beauport, où on offre du matériel local fait à 99% par des sources, des fournisseurs nord-américains, et surtout axé vers de l'équipement ultra-léger.
Donc ça, c'est souvent, c'est un manque qu'il y a au Québec et au Canada de l'équipement ultra-léger. Donc quand on parle d'une tente, on parle d'une tente d'environ 1 livre. Si on regarde dans notre magasin, ça va être du 3 livres. Donc là, c'est pour des expéditions, c'est pour des chemins de longue distance, c'est pour des gens qui veulent vraiment réduire le poids de leur sac à dos, que ce soit par rapport à tente, sac de couchage ou sac à dos.
Dans notre entretien, il m'expliquait que juste avant de partir pour traverser le Canada, il avait perdu la foi en l'être humain à l'époque. Et c'est un peu pour ça qu'il avait fait cette traversée-là du Canada. Et on l'aidait finalement. Sans lui qui demande quoi que ce soit, il a vu que les gens, spontanément, peuvent s'entraider. Puis aujourd'hui, c'est devenu un bonhomme qui est très engagé dans la société.
Ben, il y a des hauts et des bas, il y a de l'adversité. Mais je suis quelqu'un qui aime ça avoir des projets. À chaque fois quand je termine un, j'en commence un autre plus gros, j'échoue, puis je recommence. Puis c'est ça qui me drive dans la vie. Puis tu sais, je me suis dit, en 2016, là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tu sais, je peux travailler dans beaucoup de domaines. Puis là, j'ai décidé de me focusser sur comment je peux aider la société en général. Donc là, ça passe par l'investissement dans des organismes communautaires dans lesquels je travaille bénévolement ou par rapport aux différents projets de loi qu'on va lancer avec la compagnie pour pouvoir apporter des solutions pour l'environnement, pour la société, pour l'employabilité, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment ça, mon leitmotiv, mon focus.
Il y a quelque chose de vraiment rassurant là-dedans. Moi, à 27 ans, là, j'avais pas la phrase facile comme ça. Comment je peux aider la société en général? J'avais ma situation, ma vie, mon travail, ma carrière. Je pensais pas mal à moi, sans être nombriliste, là, mais on pense à nous. Mais c'est le fun et rafraîchissant d'entendre cette jeunesse de 27 ans puis voir comment on peut aider la société. Bien, c'est un peu ça que nous, on fait finalement aujourd'hui. À un moment donné, on apprend avec le temps. Pour tout le monde, en tout cas, moi, j'ai appris avec le temps qu'aujourd'hui, c'est ça, j'ai à peu près le double de son âge finalement. Il était temps que j'apprenne. Aider les gens, mais pour nous, c'est aider les gens avec la rando, prendre soin de notre santé physique, prendre soin de notre santé mentale. Voilà ce que l'on fait avec la randonnée. Tantôt, j'ai parlé du défi Ça marche. Hein? On va faire un tour sur le site internet chemindukébec.com. www.simplementplein air.com pour participer. C'est tellement simple. On accumule les kilomètres dans notre secteur. C'est comme un jeu, finalement, mais très, très, très simple, pas compliqué avec technologie. Puis en plus, ça tente de pousser ça un petit peu plus loin, là, de faire de la randonnée un peu plus, puis peut-être même éventuellement faire de la randonnée pédestre de longue durée. Bien, on est spécialisé là-dedans, autant pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Tu vas faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Tu peux faire de la formation en ligne. Ben oui, c'est possible. Tu as tous les détails. Deviens membre. En étant membre, tu as une formation complète. Tout sur la rando, comment ça marche, où marcher, où manger, où dormir, l'équipement également. Et puis, tu as des randos qui sont inclus là-dedans. À chaque mois, on fait des randos. Également, il y a plein d'entrevues, reportages, conférences avec des passionnés de partout à travers le monde qui vont venir t'allumer davantage sur la randonnée. Donc, tout ça est disponible en ligne ou encore en personne. On appelle ça les week-ends de formation rando. C'est sur 2 jours, c'est près de 20 heures de préparation, formation. C'est très, très, très inspirant. Tout le monde l'entraide et tout. C'est très fascinant de voir comment l'humain revient au galop. Et ça, c'est vraiment très agréable. Écoute, va faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Trouve ton atelier, trouve ton chemin. Vois le calendrier, d'ailleurs, des activités sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air que vous nous écoutez à la radio, en balado, au boulot, au dodo. Si vous êtes au boulot, attention, le boss n'est pas loin. Hey, à ce temps-ci de l'émission, là, on va aller rejoindre notre bushman préféré, M. Marc Prince. Salut Marc.
Salut Guy, ça va bien?
Oui, absolument. Hey, la semaine passée, on avait commencé à parler des 5C, mais on n'a pas commencé à réellement en parler. On a dit qu'on était pour en parler. Et puis, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu, puis de leur importance aussi. Il y a probablement des gens qui se grattent la tête, là, vous dites, hein, des 5C, qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est très, très, très important.
Oui, absolument. Je sais qu'on a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais on va quand même là, se faire un refresh là, dans la mémoire de ces 5C-là. Mais les émissions précédentes, je pense que les 2 émissions précédentes, on a parlé des sacs à dos. On a parlé des garanteurs appropriés. Des ajustements, dépendant de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec le sac à dos. Fait que, qu'est-ce qui est vraiment important dans un sac à dos, que ce soit d'un sac à dos d'une randonnée d'une journée ou d'une randonnée de 2, 3, 4 jours ou plus, c'est vraiment les 5C. On devrait, dans tous les sacs à dos, là, idéalement, là, ça serait, c'est pas de prendre ces 5C-là dans le sac à dos d'une journée puis le mettre dans celui de 3 jours parce qu'on porte plus longtemps et vice-versa. On devrait avoir ces 5C-là là, en permanence dans chaque sac à dos qu'on utilise. Les 5C, c'est le couteau, la couverture, le combustible, la corde et un contenant. Fait que si on commence à les énumérer, le couteau, c'est vraiment facile. On n'a pas besoin d'en parler bien, bien longtemps. On sait qu'un couteau, c'est utile là, pour à peu près n'importe quoi. On ne va jamais aller en forêt, en randonnée, sans avoir un couteau en sa possession. On peut avoir... moi, j'ai tout le temps 2 couteaux. J'ai un outil utilitaire là, qui comporte un couteau, mais j'ai des pinces, des petits tournevis après ça. Puis j'ai tout le temps un couteau à la ceinture. Ça, c'est vraiment y aller là, selon votre choix. Là. Vous pouvez avoir seulement juste un couteau utilitaire dans le sac à dos, mais je dis que c'est vraiment utile d'avoir ça vraiment à porter, là, que ça soit vite fait. S'il y a quelque chose, vous avez besoin d'un couteau, quand vous l'avez à la ceinture, ou soit il y en a beaucoup qui vont le porter dans le cou. Un plus petit couteau, il y a les Mohawks qui font des excellents couteaux là, avec des sangles qu'on peut mettre dans le couteau. C'est vraiment des produits intéressants. Ensuite de ça, on parle du couteau, on parle de la corde. La corde, c'est la même affaire. La corde, on sait que ça peut être utile pour à peu près n'importe quoi. Si on veut se bâtir un abri, si on a d'affaires, là, on va à l'extrême, là, mais si on s'est viré une cheville, on va se faire un attel, ça prend quelque chose pour attacher ça. La corde, elle peut être utile pour beaucoup d'affaires. Si on est 2 personnes, on a un creek à traverser, un ruisseau, peu importe, on peut se lester un et l'autre pour sécuriser la première personne qui va traverser en cas de chute ou quoi que ce soit. Une corde, là, ça a 1001 utilités. Ensuite de ça, on peut aller voir quand on parle de couverture, réellement, là, c'est des petites couvertures qui vendent. Vous pouvez vous en procurer dans les bons magasins. Là. Pour Nature One Aranda, on a ça en plusieurs formats. C'est des petites couvertures, là, les couteaux thermiques qu'ils appellent. Là, c'est comme ça ressemble un petit peu à un foil. Là. C'est des petites couvertures qui sont vraiment pas dispendieuses. Ça prend vraiment pas de place. Puis, contrairement à ce que bien des gens peuvent croire, c'est des couvertures vraiment efficaces. On peut s'en servir probablement comme couverture pour se couvrir. On peut s'en servir aussi pour se faire un toit sur un abri de fortune. Ça a plusieurs utilités.
Oui, puis j'ai entendu dire aussi qu'en survie, c'était important aussi de n'avoir une parce que on disait que la réflexion, si on se perd, là, admettons, on est vraiment bien perdu puis capable de se retrouver, juste la réflexion de cette couverte-là, quand on se promène avec sur notre dos, ça l'aide les gens à nous retrouver.
Oui, absolument. Ça a vraiment beaucoup, plusieurs utilités, là. Puis, au prix que ça se vend, là, je vous conseille même d'en avoir au moins deux dans vos sacs. C'est vraiment pas dispendieux. Puis, c'est quelque chose que vous allez apprécier quand vous allez en avoir besoin. On peut passer le contenant. Un contenant, ça peut être utile pour faire de la cueillette de fruits. Ça peut être utile pour aller récupérer de l'eau. Idéalement, moi, je conseille aux gens de prendre un contenant en métal. Pourquoi en métal? Parce que ça va vous permettre de pouvoir purifier l'eau. Si vous avez besoin d'avoir du liquide pour boire, on va prendre de l'eau d'un ruisseau, on va faire un feu avec un contenant en métal, genre une petite gourde. Ça va vous permettre là, de faire bouillir votre eau. Fait que c'est vraiment intéressant ce côté-là. Ensuite de ça, il nous reste le combustible. Le combustible, ça, c'est... faut pas passer au côté de ça. Ça va aller vraiment selon votre choix. Moi, personnellement, j'ai dans mon sac à dos, j'ai tout le temps un sac de mousse de chécheux. On pourra peut-être en parler plus tard. Ou je pense même qu'on a une petite vidéo qui montre vraiment comment c'est
oui.
un bon produit.
Oui, effectivement. Oui.
Fait que la mousse de sécheuse, là, ça coûte rien. Ça prend pas de place. C'est vraiment léger. Tout le monde en a de tout. Fait qu'un sac de mousse de sécheuse dans le sac à dos, c'est vraiment utile. Faut que ça soit vraiment sec. Ensuite de ça, moi, je vais acheter souvent là, ce que j'ai dans mon sac à dos. J'ai des petits allume-feu. Il y a différents formats qui existent. Moi, c'est là que j'aime bien gros. Là, je les appelle mes petites têtes de foin. Là. Ça se trouve être de la rite qui a été mélangée avec de la paraffine. Ça a été moulé en petits cylindres. Ça a environ, je vous dirais, peut-être 3/4 pouce de diamètre. Puis peut-être là, 1,5 à 2 pouces de long. Ça, c'est des petits allume-feux qui sont pas dispendieux, qui prennent pas beaucoup de place, qui sont légers. Puis eux autres, même s'il y a de l'intempérie, mettons, qui neige ou qui mouille, là, vous allez être capable d'allumer quand même ces petites parties-là, fait que c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'avec ça, pour allumer ça, ça prend une source de chaleur. Des briquettes. Il y en a des gens là, qui sont pas à l'aise avec ce qu'on appelle le fire stick, le bâton de feu. Vous pouvez acheter des bics. Des bics, là, ça se vend vraiment pas cher. Vous achetez un sac de bics, quelques dollars. Mettez-en partout. Mettez-en dans vos poches. Mettez-en dans vos deux, trois, dans votre sac à dos. Fait que sur le lot, c'est sûr que vous en avez un qui fonctionne. À temps froid, faut pas se leurrer. Un bic, ça fonctionne avec du propane. Ça marche pas bien. Fait que, idéalement, c'est d'en traîner un sur soi. Sinon, quand vous allez en avoir besoin, vous pouvez vous sortir de votre sac à dos, le mettre à l'intérieur de votre mitaine, puis le réchauffer, si vous voulez avoir un. Surtout. Il y a des allumettes hydrofuges qui se font. Il y a plein de gadgets. Moi, j'adore vraiment le fire stick qu'on appelle. De l'avoir un fire stick puis une petite boule de mousse de sécheuse, là, ça l'allume vraiment, vraiment. Mais ayez plus qu'une sorte de source de chaleur. Puis vous pouvez avoir juste un briquet ou une boîte d'allumettes. Ayez différents articles là, pour allumer un peu.
Oui, parce qu'on...
Oui, vas-y, Guy.
Oui, on sait qu'un feu, hein, écoute, si on tombe à l'eau, si on se mouille les pieds, si... Tu sais, c'est l'élément, hein, l'élément qui peut faire la différence d'une catastrophe à un souvenir qu'on va rire de dans 3-4 ans, là. Mais
ouais.
Ça peut faire une grosse différence.
Oui, oui, absolument. Le feu, mettons, c'est source de vie. Ça prend absolument le matériel dans votre sac à dos pour être capable de faire un feu. Ça, c'est essentiel, mettons. On se dira même pas, bagarre, je vais pas partir pour longtemps, je vais juste aller faire une petite marche d'une demi-journée. Je n'ai pas vraiment besoin. On sait jamais ce qui peut arriver. Vous êtes mieux de partir prévoyant, de ne pas être obligé d'utiliser ces accessoires-là parce que vous n'avez besoin en cas de survie. Mais la journée où ça va arriver, vous allez être vraiment fier d'avoir ça à votre protection.
Oui, absolument. Hey, écoute, Marc, le temps file rapidement. Si on veut plus d'informations, et naturellement, ben, l'équipement que tu nous parles, à part la mousse de sécheuse, naturellement, là, il y a beaucoup d'équipements qu'on retrouve chez ProNature à Rouyn-Noranda. Mais si on veut te rejoindre et te poser des questions sur, justement, le bushcrafting et puis toutes ces choses-là, on le fait de quelle façon?
Vous pouvez me rejoindre directement en magasin au 59 Avenue Principale à Rouyn. Ou par téléphone au 819-797-2300. Ou pas encore mon Facebook. Vous pouvez me demander comme ami, Marc Prince, j'accepte pratiquement tout le monde. Je demande juste une petite note en me disant là, pourquoi vous voulez devenir ami. Je fais un petit peu de filtration, puis il y en a que c'est juste pour grossir le liste d'amis, comme on dit. Mais la majorité du temps, là, on peut discuter sur Facebook sans problème. Et en magasin, là, on a une belle allée là, vraiment là, d'accessoires là, pour les gens qui veulent faire soit aller dans le bois, là, devenir faire de la survie ou ben non, juste de la randonnée pédestre ou vous amuser, là, on a de bel équipement pour aménager un sac à dos.
Oui, puis en plus de ça, bon, on a le bon conseiller aussi, les deux bons conseillers, parce que Cynthia, ta fille, est très bonne aussi.
Oui, absolument. Moi et Cynthia, mettons, on suit pratiquement là, les mêmes bottes.
Oui, absolument. Hey, écoute, Marc, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tu passes une bonne semaine.
Bonne semaine à vous, gang.
Et demeurez des nôtres, nous, on vous revient après ceci.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. Et oui, on a toujours le sourire aux lèvres, comme vous pouvez l'entendre. Ah, une voix avec un sourire, c'est tellement plaisant. Et j'ai avec moi une autre voix avec un grand sourire. Il s'agit d'un conférencier, il s'agit d'un auteur, un éditeur. Et pour ceux là qui sont nouveaux chez Simplement plein air, ben, il s'agit de M. Roger Larivière. Bonjour, M. Larivière.
Oui, bonjour, M. Martin.
Hey, ce matin, comme je l'ai mentionné dans le préambule, on va parler, je ne l'ai pas mentionné, non, j'ai mentionné que vous étiez gentil, qu'on avait le sourire, et pour les nouveaux, bien naturellement, qui sont là, ceux qui sont là depuis un bon bout, savent qu'on jase et on continue sur notre série du Chaga, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, et pour ceux qui sont nouveaux, bien, vous pouvez retourner dans les balado-diffusion du mercredi. Tous les mercredis, M. Larivière, on fait la rediffusion, si on veut. On prend ce que vous entendez là et on va le mettre en balado-diffusion tous les mercredis. Donc, vous pouvez suivre la série. Vous n'avez qu'à aller sur soit iHeartRadio ou peu importe votre podcatcher préféré. Vous allez voir, faites une petite recherche simplement plein air. On est facile à trouver. Vous allez sur Balado Québec aussi. Et voilà, ceci dit, M. Larivière, la question que j'ai pour vous est simple et complexe, je vous dirais, dans le sens que une personne trouve sur sa terre à bois un bouleau blanc ou un bouleau jaune où il y a un beau chaga. Il y a un « Wow, il y a un chaga qui est là, l'arbre est naturellement en train de... » Ben, en tout cas, ça, vous en parlerez, mais il est en train de mourir. Mais là, on nous dit, on nous demande, est-ce qu'il y a une chance de se reproduire et puis d'attaquer mes autres arbres, façon de parler, ou de se reproduire dans les autres bouleaux blancs et jaunes que j'ai sur ma terre? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben c'est sûr. D'abord, c'est sûr parce que on sait très bien que les chagas qu'on trouve, ça provient de d'autres chagas qui existaient ailleurs et qui ont produit des spores. Ces spores ont été produits. Les spores ont, rappeler à tous les auditeurs, ce sont les cellules reproductrices de tous les champignons. Puis Chaga, ben, c'est un champignon, puis il en fait lui aussi. Alors, les sports s'en vont dans l'air et il faut absolument qu'il y ait une blessure sur l'arbre pour que l'asport pénètre et se reproduise.
Dans l'autre boulot. Mais ça, là, ça se fait à quel moment? Le chaga, là, comme tel, vous avez un beau gros chaga. Et puis, quand est-ce qu'il fait sa sporie, si on veut? Là? Quand est-ce qu'il répand son spore? Il répand l'automne, il répand au printemps, ou ça se répand à une certaine période donnée?
Moi, je vous dis, ben, en tout cas, la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on voit un boulot qui est encore vivant et sur lequel il y a des beaux champs, donc des beaux chagas qu'on pourrait récolter, ben ce boulot-là, il n'est pas encore prêt à produire ses spores parce que les chancres, c'est composé essentiellement de mycélium, donc c'est stérile.
Ah, OK.
Il faudra absolument que le boulot meure. Donc, quand le boulot va être prêt, quand il ne restera plus aucune feuille vivante dans l'arbre, aucun bourgeon, aucune branche, ben là, l'intérieur du boulot, en quelque sorte, a été complètement digéré. Et les vaisseaux qui conduisent la sève dans le boulot, ben ils sont envahis par le mycélium du champignon à l'intérieur. Je rappelle aussi aux auditeurs que quand on voit du chaga à l'extérieur d'un boulot, ben il faut savoir que la plus grande partie du chaga, du mycélium, est à l'intérieur et est en train de faire un travail qui s'appelle la digestion de tout ce qu'il y a comme bois à l'intérieur de l'arbre.
Donc lui, autrement dit, il va s'attaquer au cœur et à la sève et puis il tue le boulot, si on peut parler de ça là.
Exactement, exactement. Et quand l'arbre meurt, ben là, le chaga, lui qui était dans sa phase stérile, ben va pouvoir. Pendant ce temps-là, il faut rappeler aussi que le chaga, le mycélium, a accumulé suffisamment de minéraux, donc d'énergie en quelque sorte, pour être capable, après la mort du boulot qu'il portait, ben de passer à sa phase de reproduction. Donc, le boulot mort va entamer pendant 3 à 5 ans après la mort de ce boulot-là, va être capable de se spécialiser en quelque sorte en une structure ou des structures de reproduction. Et c'est là qu'il va produire ses spores.
Ah, OK. Donc,
longtemps après la mort du boulot.
Ah.
C'est pour ça que c'est long, le cycle de vie d'un chaga. C'est 30-40 ans où il digère, donc il est vivant, le chaga, mais il est stérile, le boulot meurt, puis ensuite, quand le boulot est mort, bien, ça va lui prendre de 3-5 ans à se spécialiser, à produire des spores, et c'est après ça qu'il va envoyer dans l'air ces spores qui vont contaminer à nouveau des boulots blessés.
Ah, OK. Donc, on ne se partira pas une ferme de chaga demain matin, là.
Hey, écoutez, pour faire une histoire courte, je l'ai moi-même essayé il y a 3-4 ans, j'ai pour le fun. Mais j'en verrai jamais les résultats en tout cas, pendant ce qui me reste cette année à vivre. J'ai pris un morceau de mycélium de chaga, donc sur un champ qui était là, sur un boulot, et avec la hache, j'ai fait ce qu'on appelle en bon québécois une natch par en dessous, et j'ai mis un petit morceau de mycélium, donc un petit morceau de chaga. Puis probablement que ce mycélium-là va envahir le boulot, puis il va le faire mourir éventuellement. Mais ça va prendre de 30 à 40 ans. Alors, vous imaginez, puis je disais souvent à des gens lors de mes ateliers, écoutez, si vous avez un voisin que vous n'aimez pas et où vous voyez des boulots, ben vous pourriez toujours prendre du mycélium que vous avez récolté, puis aller faire une petite natch sur le boulot, puis le contaminer, mais jamais vous allez voir les résultats.
À moins d'avoir 15-20 ans, oui. Là, il y aurait des chances qu'on les voit, mais à part ça, on les verra pas.
Oui, ça se pourrait.
Oui, c'est ça. Ça. Mais là, quand c'est fait, ça, naturellement, c'est parce que le chaga va faire son travail à l'intérieur du boulot, j'imagine, la partie qui ne sera pas visible pour le moment et pour bien des années. Et puis, par la suite, quand la fameuse verrue, là, qu'est-ce qu'on voit là, le chaga ouais. sort, j'imagine, là, c'est parce qu'il a vraiment bien entamé son travail à l'intérieur. Là.
Ah, écoutez, quand il y a sur un boulot 1, 2, 3, 4 ou 5 chagas des chambres qu'on appelle, ben, écoutez, le travail est très bien entamé à l'intérieur. Puis quand on coupe un boulot qui est, parce qu'on peut le faire, là, on peut couper le boulot, puis on voit très bien. Parce qu'il y en a qui vont couper du boulot, par exemple, pour leur bois de chauffage, puis il y en a qui savent qu'il y a du chaga dedans, ils le voient à l'extérieur. On est capable très bien de voir tout l'intérieur de l'arme qui est, entre guillemets, chancré, qui est déjà en train de pourrir parce que le chaga part du centre puis va s'étendre vers l'extérieur jusqu'en dessous de l'écorce, jusqu'au moment où il donne le coup fatal. Et la sève qui circule juste en dessous de l'écorce, ben, elle pourra plus circuler et puis là, l'arbre meurt. Je vous dis, là, c'est une lente mise à mort et c'est cruel pour un boulot.
Oui, effectivement. Donc, là-dessus, M. Larivière, le temps file tellement rapidement. Moi, j'aimerais informer nos auditeurs que M. Larochelle, comme je l'ai mentionné au début, est naturellement éditeur, mais aussi auteur. Et on parle beaucoup du chaga parce que M. Larivière a aussi un bon livre qui s'appelle « Chaga en vrai » aux éditions de l'ABC. Donc, si ça vous intéresse, quel beau cadeau de Noël. Mais il n'y a pas juste ça parce qu'il y a neuf autres travaux, ouvrages, si on veut, de M. Larivière. Et si on veut se les procurer, naturellement, M. Larivière, j'imagine que c'est dans... pas à peu près toutes les bonnes librairies, mais si on veut l'information ou plus d'informations, on le ferait de quelle façon?
Écoutez, je suis toujours disponible sur Facebook, mais aussi vous pouvez m'envoyer des questions directement à mon adresse que vous allez trouver sur mon site web. Et mon site web, c'est naturat.ca, naturat.ca, et mon adresse est là. Et facile de me rejoindre.
Et voilà, nous, naturellement, on va rejoindre M. Larivière la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui s'intéressent, bien, demeurez des nôtres. On est de retour après ceci.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
En commercial, simplement plein air.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.